Vous êtes bien sur Radio Bartas.
Vous êtes bien sur le 107 FM.
Il est 9h.
Les matinales de Bartas.
Pour parler de tout et de rien.
Du local surtout.
Et un peu de national, un peu d'international.
Ouais, mais pas trop.
Les matinales de Radio Bartas.
C'est à partir de 9h.
Sur le 107 FM.
Ah, mais c'est parce que j'avais pas mes lunettes.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107, nous sommes au juin, le mercredi 15 juillet, il est 9h et avec moi Nico, salut Nico.
Salut Ben.
On a la patate, on a la pêche du reggae le matin, bon, non, mais moi je dis franchement, belle idée ce générique, qu'est-ce que t'en penses?
C'est le bonheur, enfin, j'ai envie de prendre un hamac et aller me frapper au bord de la mimente.
Tu m'étonnes, ça fait du bien. Allez, au programme de cette matinale, dans un instant nous serons avec Fabien Moutet, directeur du festival Des Tours du Monde. Il était venu nous en parler il y a quelques semaines et Des Tours du Monde, quelle bonne nouvelle, c'est ce week-end. Et voilà, tout est adapté et c'est quand même cool. Les festivals reprennent, ça fait du bien. Et profitons-en parce qu'ils annoncent quand même une bonne deuxième vague là, qu'on n'est pas à l'abri de se la prendre sur le coin de la tête, dis donc. Et puis en deuxième partie d'émission, nous sommes allés avec Nico au festival de BD de Saint-Enimy. Ce sont là les premiers extraits montés un peu en vrac. Nous serons avec Philippe qui est président de l'association Saint-Enimy BD, Eric Hupsch, Marco et Armel qui sont auteurs de BD. On avait passé un sacré bon moment à mon Nico.
Ouais, c'était super bien.
Carrément.
Sympa.
En tout cas, ce sera en deuxième partie d'émission. Le tout avec de la musique, bien sûr. Et on commence bien évidemment par l'édito. C'est parti.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là.
Ce n'est que l'édito des Bartas. Et vous avez aimé le confinement ? Vous allez adorer passer vos vacances à Center Park. Ah ouais, ouais. Mais bonne nouvelle quand même, hein. À la suite de procédures judiciaires et de l'occupation de zadistes, le groupe Pierre et Vacances a annoncé mercredi dernier l'abandon du chantier du Center Park prévu à Roibon en Isère. Alors, le Center Park de Roibon aurait dû réunir plus d'un millier de cottages autour de l'Aquamondo, une bulle transparente maintenue à 29 degrés, un lieu où aurait dû s'épanouir commerce, restaurant, piscine et autres jacuzzi. Tu m'étonnes. Le groupe aura finalement fait une croix sur son projet de plus de 390 millions d'euros qui devait grignoter la forêt de Chambaran sur 150 hectares. Le projet n'aura donc pas survécu aux actions des militants pour qui l'initiative était une menace. Dès le 30 novembre 2014 pour le Parisien, Stéphane Perron, président de l'association d'opposants pour le Chambaran sans Center Park, PCSCP, comparait le projet à un véritable carnage pour l'environnement. Le clap de fin du chantier de Roibon n'enterre pourtant pas définitivement les autres projets Center Park. On pense qu'il vaut mieux réserver nos moyens intellectuels et financiers pour d'autres développements. On peut très bien réussir quand le contexte n'est pas aussi hostile. C'est ce qu'a souligné auprès de l'AFP Gérard Brémond, le PDG du groupe Pierre et Vacances. Indépendamment de deux projets de la forêt de Chambaran, le développement de plusieurs Center Park en France s'est poursuivi pendant la même période. Alors, dans la Vienne, le domaine du Bois au Dain a ouvert ses portes en 2015. Le domaine des Trois Forêts en Moselle a été étendu en 2007 et en 2019. Le domaine des Landes de Gascogne en Lot-et-Garonne, qui devait ouvrir ses portes au printemps 2022, a été très favorablement et soutenu tant par les collectivités territoriales que par les habitants et les acteurs de la protection de l'environnement. Bah tiens, allez. Ah ouais, si on allait passer nos vacances dans les bubules de Center Park, hein, l'occasion pour moi de vous conseiller un livre de Jean-Christophe Ruffin qui s'appelle Globalia. L'action se déroule dans un futur indéterminé, en juillet 27 d'une ère globalienne dont on sait seulement qu'elle est postérieure à la nôtre. Une sorte d'état mondial, Globalia, qui assure à ses citoyens la sécurité, la prospérité et une certaine forme de liberté tant qu'ils ne remettent pas en cause le système. Et devinez quoi ? Les habitants vivent sous cloche, dans des bubules. Et vous avez aimé le confinement, vous allez adorer vos vacances à Center Park. Center Park, une petite aberration écologique. Allez, moi j'ai juste envie de vous dire que dans un instant, on se retrouve avec Fabien Moutet. On écoute d'abord La Tordue, ça s'appelle Ma Boule. Et ouais, Center Park, ça peut rendre bien ma boule.
3,48, le reste en soi, sous le gilet, la cacaillerie, intérieur cuir, ça va de soi, tu claques des doigts, le reste suit, t'es le caïd de la canne-bière, et t'as un fameux coup de raquette, si on veut que tu nous payes une bière, à tes combines, y'a qu'à dire niais.
Tu ramènes des caisses, des pots de vin, quand tu fais la tournée des caves, du rupin, du politicien, tout le gratin qui se déprave, tu soignes ta réputation, tes hommes de main et leurs bagouses, t'as une chaîne de télévision,
des armes de la canne et du
fou. Moi, je veux pas finir ma boule, et je bulle sur la map monde. Je regarde tourner la boule sans jamais rentrer dans la ronde.
À l'aise de l'air du temps, tu vends du vent dans des ampoules. Tu pourrais te casser les dents pour les revendre à une poule. T'as dégoté l'Eldorado, une mine de rien qui vaut de l'or. Tu donnes la pilule à gogo, t'as trouvé une poule aux yeux d'or.
T'amasses des liasses, mais tu te délasses. Miami Beach, les pieds dans l'eau. Et tu joues aux dames à Damas. Pendant que Bibi, je te masse le dos. Tu vends tes services les plus secrets à des riches qui tombent par rond. T'as des valises pleines de billets
et des devises qui sentent pas bon.
Moi, je veux pas finir ma boule. Et je bulle sur la map monde. Je regarde tourner la boule sans jamais rentrer dans la ronde. Moi.
De catch dans des hangars à Marrakech. Comme sport, tu fais n'importe quel sport et tu fais transpirer les autres. Tu magouilles au franco de porc avec des requins de toutes sortes.
T'es converti au CAC 40, prêt à tous les salamalecs. Tout est bon pour que le pognon rentre, mais tu sais pas quoi faire avec. Même pour l'amour, t'es content et tu te noircis à temps partiel dans des bars réservés aux blancs.
J'aime pas les négros spirituels.
Ma boule et je bulle sur la map monde. Je regarde tourner la boule sans jamais rentrer dans la ronde. Ma boule et je bulle sur la map monde. Je regarde tourner la boule sans jamais rentrer dans la ronde.
Nous sommes ce matin avec Fabien, bonjour.
Salut.
Quel plaisir de te recevoir. Tu es le directeur du festival Détour du Monde. Fabien, comment on se sent là, quelques jours du festival? C'est quoi, c'est un défi?
C'est un défi, c'est un gros défi pour l'association. On planche dessus depuis mars parce que c'est quand même assez compliqué. Il faut savoir que on a pris la décision, nous en tout cas pas d'annuler, puisqu'on n'a pas annulé, mais de réinventer le festival dès le début du confinement. En fait, très vite, on s'est dit ça sert à rien d'aller droit dans le mur, ça va être très compliqué. Il faut qu'on anticipe tout ça, il faut qu'on commence à réfléchir autrement.
Alors justement, comment vous avez bossé pendant ce confinement? Ça n'a pas dû être simple, hein, parce que déjà, c'était pas sûr que le festival soit maintenu. Si, c'était sûr?
C'était sûr, oui, on travaillait depuis septembre, on travaillait en tout cas à la préparation, donc si, le festival allait avoir lieu. S'il n'y avait pas eu la crise sanitaire, c'est évident que le festival aurait eu lieu, puisqu'on travaillait dessus, comme je disais, depuis le mois de septembre, et on allait le faire. Après, c'est toujours assez compliqué quand même de sacrifier quelques mois de travail, parce que malgré tout, comme je l'explique, depuis septembre, nous, on commençait à travailler sur l'édition. Et prendre la décision rapidement de dire non, mais tant pis.
On bosse comme si rien ne se passait, quoi.
C'est pas comme si rien ne se passait, mais tout le travail qu'on a fait en amont, tout le festival comme il avait lieu avant, on va pas pouvoir le faire, donc comment on fait et qu'est-ce qu'on fait? Et dès le début du confinement, on a fait comme tout le monde, on a découvert les joies de la vidéoconférence, de la visioconférence, et on a commencé à travailler tous ensemble, à réfléchir. On a beaucoup réfléchi, nos réflexions ont beaucoup évolué aussi en suivant l'évolution de la situation sanitaire. Donc on a tout envisagé, le fait de faire un festival en ligne, on est reparti de zéro pour tout reconstruire, pour petit à petit affiner, revenir sur ce qui nous tenait vraiment à cœur. Et ce qui nous tient vraiment à cœur, c'est de soutenir le spectacle vivant. Donc pour nous, c'était inconcevable en fait d'imaginer un festival sans rencontre entre le public et les artistes.
Alors, on disait adaptation, et donc ce sont désormais des parcours à travers Chanac, chez l'habitant, oui, dans des lieux atypiques, c'est ça ?
C'est ça, c'est exactement ça en fait. On a imaginé, alors déjà on a gardé la thématique, comme chaque année en fait on essaye de travailler une thématique qu'on pose dès le mois de septembre en fait, et qui est un peu le fil conducteur de toute notre réflexion sur la construction des éditions. Donc cette année... On a posé la thématique du langage, on l'a remis vraiment au centre de notre réflexion. En fait, on a construit tout autour de cette thématique-là. Et de là, en fait, on a essayé d'imaginer en fait quels étaient nos points forts dans l'association sur lesquels on pouvait s'appuyer sur cette édition. Évidemment, il y a la radio Rumeur du Monde qui est présente, qui est depuis maintenant 9 ans. Donc pour nous, c'était évident qu'il fallait que la radio soit aussi au centre de cette édition. Et après, on a beaucoup réfléchi en fonction des contraintes et de l'évolution des contraintes. C'est là où ça a été très compliqué. Et très vite, on en est arrivé à l'idée qu'on avait la chance à Chanac d'être dans un lieu, enfin d'être dans un village qui avait beaucoup d'atouts patrimoniaux, qui avait aussi la nature, qui avait des superbes sentiers, qui avait des dolmens notamment, et on s'est dit voilà, il faut qu'on s'appuie là-dessus. Et donc on a imaginé, en tout cas en journée, un festival justement qui vient emprunter ces parcours-là, qui vient montrer la richesse patrimoniale du territoire, et qui va mettre en avant des artistes, et des artistes avec un lien de beaucoup plus de plus de proximité encore, puisque l'idée c'est vraiment, à ce jour en tout cas, c'est des parcours de 10 spectateurs qui vont venir à la rencontre d'artistes, et d'artistes qui vont pas simplement être là pour jouer de la musique, mais qui vont être là aussi pour parler de leur parcours, pour parler de la notion qu'ils ont eux du langage, et à travers leurs esthétiques, parce qu'il y aura pas que de la musique cette année, c'est mettre en exergue aussi le langage que l'on trouve à travers l'artistique.
Alors, c'est peut-être moi, je ne sais pas, mais j'ai pas vu le nom des artistes sur le site. C'est moi ou j'ai
non, ce n'est pas toi. C'est un choix. C'est un choix de l'association. Tout d'abord, on peut en parler. Je ne vais pas cacher les artistes qui seront d'ores et déjà présents. Mais l'idée, c'est vraiment plus de mettre en avant justement de. La crise fait aussi qu'on se pose beaucoup la question du rassemblement, de la rencontre, de la découverte. Et ce qu'on veut mettre en avant sur cette édition, c'est pas forcément le choix des artistes, mais c'est plus en fait les notions et les valeurs que porte l'association, qui sont vraiment au centre. Donc l'idée, donc les artistes, je peux déjà te dire qu'il y aura Walid Ben Selim, qu'il y aura aussi Rodin Kaufman. Pour l'instant, c'est les deux noms que je vais juste citer. C'est après artistiquement, on va s'appuyer énormément sur les artistes du Silo, donc le centre de création coopérative des musiques du monde et traditionnelle en Occitanie, puisque c'est une action que l'on mène toute l'année aussi avec le Festival des Tours du Monde. Et justement, c'est l'occasion aussi de prendre le temps de faire découvrir ces artistes-là, ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils défendent à travers leur musique.
Et il y aura aussi des ateliers.
Oui.
Alors, le premier m'a fait rire parce que je t'en ai parlé
hors
antenne, voilà. Désintoxication à la langue de bois. Ouais. Et on en a bien besoin en ce moment.
C'est pas faux.
Concrètement, ça va être quoi cet atelier ?
C'est un atelier en fait qui est mené. Comment expliquer en fait ? C'est je suis pas le mieux placé pour en parler en fait, mais le principe, on a toujours fait des ateliers à l'occasion du festival, et c'est vrai qu'il y a ça fait plusieurs années déjà qu'on a repéré les conférences gesticulées, notamment de Franck Lepage. Et ces ateliers découlent justement directement de ces conférences gesticulées, où vraiment ça va être un atelier pour mettre en exergue justement comment décrypter le langage, la langue de bois. Ça va être tout un travail là, ça va être très ludique en tout cas, et très intéressant, et malgré tout très engagé aussi. Et c'est un atelier qu'on va retrouver sur les deux jours, donc le vendredi et le samedi. Et voilà, c'est une place aussi qu'on a voulu donner justement à ces ateliers-là, parce que là on parle de cet atelier-là, il y a aussi un atelier d'écriture autour du langage, un atelier qui va être évolutif, avec en matinée justement toute une partie d'écriture avec les
Participants.
Les participants, voilà. Et ensuite, on propose l'après-midi de le mettre en musique, de mettre ces textes en musique, de travailler justement la musicalité que l'on peut mettre sur des textes qu'on écrit.
Écriture et performance du langage, hein, c'est celui-là.
C'est ça.
Et ouais, j'ai lu, donc du coup, ce sera Lollipo qui sera un peu présent, c'est un peu le fil rouge, quoi.
Ouais.
Super. Donc on a parlé de Radio Rumeur du Monde, des spectacles soutenus quand même par la mairie, etc. derrière.
Oui, on a la chance, c'est ce qui nous permet justement de pouvoir proposer cette édition aussi, parce qu'il y a quand même un contexte économique très lourd malgré tout. Et on a la chance justement d'avoir le soutien des institutions, notamment, enfin, je vais les citer, hein, c'est la région Occitanie, c'est le département de la Lozère, c'est la commune de Chanac. C'est vraiment, et c'est justement ce qui nous permet en tout cas de pouvoir proposer quelque chose, parce qu'après la situation fait qu'il y a eu faut savoir qu'on est on s'autofinance à hauteur de 60 à 65%, donc il faut voir aussi cet aspect là qui fait que on sait que cette année on pourra pas. Que c'est une perte financière aussi, mais il y a aussi les organismes professionnels de type Adami, FCM, c'est des organismes qui nous aidaient beaucoup aussi, qui malgré tout faisaient qu'on pouvait proposer ce qu'on proposait. Et il a fallu imaginer un festival en prenant en compte vraiment ces contraintes. Après, il y a cette notion de solidarité aussi qui apparaît très vite dans la culture et dans la musique. Donc, nous, on a la chance d'avoir des artistes qui sont très engagés, qui ont envie de jouer. Donc, qui appellent même pour dire « Oui, on a appris que vous faisiez quelque chose, on veut absolument venir, on veut absolument participer. » Et ça prouve que le festival, en tout cas, marque aussi les artistes, parce que ce sont des artistes qui sont déjà venus au festival. Et ça veut dire qu'ils sont très attentifs aussi à la situation des festivals, et c'est important, et c'est justement cette édition, on la veut vraiment sous le signe du rassemblement, se fédérer, se retrouver en tout cas.
J'ai eu Sophie Pantel, qui est la présidente du département, par téléphone, qui m'avait dit que fin avril, il y a une subvention exceptionnelle d'1 million d'euros qui avait été signée, votée. Est-ce que, par exemple, par rapport au Festival au son, vous avez été soutenu parce qu'il a été annulé? Ça, c'était début avril, si je ne m'abuse, si mes souvenirs sont bons.
C'était prévu début avril, oui, tout à fait. Nous, on a fait un choix dans l'association, c'est que on est conscient, il y a nous, mais il y a aussi les autres. Donc on a décidé pour l'instant de ne pas aller en tout cas sur les fonds de soutien et d'assumer justement cette crise, parce que on est conscient qu'il y a beaucoup d'entreprises en fait, et que ce soit dans le secteur culturel ou pas, qui vont avoir besoin de cet argent. Donc on essaye un maximum en tout cas à ce jour de ne pas aller sur ces demandes-là, quoi.
C'est tout à votre honneur. Le monde de demain, c'est une autre expression à la mode en ce moment, hein. Bon, le monde de demain, c'est déjà aujourd'hui. Comment tu le vois, toi, surtout pour la culture, puisque tu es un acteur culturel?
Inquiétant. Très inquiétant, en fait, parce que il faut faire l'analyse de ce qui s'est passé, donc depuis mars, même depuis février, et ce qui peut se passer après. On est conscient, les aides, on ne sait pas du tout... qu'est-ce que ça va devenir, ces aides, sur est-ce que ça va baisser ou pas? Et justement, il faut commencer à anticiper tout ça. Donc oui, on est encore dans la crise. On ne sait pas jusqu'à quand on va y aller. On va y être, en tout cas. Et je pense que c'est important de commencer à parler de reconstruction. Alors, je vais forcément parler spécifiquement de la culture. Ce qui est important, c'est de co-reconstruire ensemble, en tout cas. On ne doit pas... je pense qu'il faut à un moment donné que les acteurs... qui font les choses, donc ce que même les artistes, les prestataires, les opérateurs culturels, ils doivent être présents dans la reconstruction. C'est évident qu'on ne pourra pas, qu'il y a un risque, en tout cas, qu'on soit pas sur le maintien des aides qu'on a actuellement. Donc, comment on va faire pour refonctionner? Comment on fait pour être cohérent tous ensemble? Comment, en tout cas, je pense qu'il y a une question de concertation qu'il faut mettre au cœur de la reconstruction dès maintenant, en fait. Et ne pas attendre pour ne pas laisser les choses s'avancer.
C'est ça, et c'est intéressant aussi, puisqu'on en parlait aussi hors antenne, c'est une grosse remise en question, et ça peut donner quelque chose d'assez génial aussi, quoi.
Il faut que ça donne quelque chose de génial, en tout cas, il faut avoir une vision positive des choses, donc la crise, on va tous la, on la subit tous, de toute façon. Il y aura, enfin, et il faut que justement, dans, c'est toujours dans, je vais dire, bon, le mot, dans la galère, qu'on se forge et qu'on se reconstruit. Et de toute façon, il faudra en tirer du positif, parce que si on reste sur du négatif, si on reste là-dessus, on va que vers le gouffre, en fait. Donc après, je pense qu'il va y avoir une grosse remise en question de tous.
Je sais pas ce que t'en penses. Moi, j'ai trouvé ça intéressant, mais on a vu une nouvelle façon de consommer la culture pendant ce confinement.
Ouais.
C'était assez intéressant. Et d'ailleurs, vous aviez vous-même eu l'idée en se disant, oh, tiens, à un moment, on fera peut-être un festival en ligne, etc.
Ouais.
Quel regard tu portes là-dessus? Est-ce que, enfin, moi, je trouve que c'est positif après.
Tu sais, mon regard a évolué, en fait. C'est que le numérique a pallié. À pallier justement ce qui s'est passé, donc le confinement. Les artistes ont besoin aussi de s'exprimer, et ça a été un superbe moyen pour eux de diffuser à travers la musique, leur musique en tout cas, leurs pensées, etc. Après, je pense vraiment que ça ne doit pas devenir la norme, en fait. Et justement, la multiplication des vidéos sur Facebook, sur tout ça, ma position a évolué par rapport à ça, c'est-à-dire que ça pallie à quelque chose, mais ponctuellement, mais ça doit en aucun cas devenir la norme. Je suis vraiment convaincu que le spectacle doit être vivant. Et par vivant, j'entends qu'il doit se vivre en face à face, en confrontation avec l'artiste, en tout cas, pour faire passer les émotions, pour faire passer les messages. Il faut qu'il y ait cette confrontation du public avec l'artiste. Et justement, c'est pour ça que cette idée de festival en ligne, on l'a très vite élagué, mais on n'a pas élagué, en fait. C'est pas le mot. Parce qu'on a une partie qui va être sur le web. Après, c'est qu'est-ce qu'on présente sur le web. Et c'est là où on fait attention, on est attentif sur le fait qu'on ne va pas on n'a pas proposé à des artistes d'enregistrer des vidéos qu'on mettra en ligne. Le web, on va s'en servir. Cette édition, en fait, est travaillée sur trois axes. Donc, la partie présentielle, spectacle vivant, c'est ce qui va se passer à Chanac. La radio Rumeur du Monde, qui va être là, justement, pour relayer tout ce qu'on va faire sur l'ensemble du week-end, mais pas que, puisqu'on fait, on a aussi proposé carte blanche à des radios du monde entier, notamment du Maroc, de Tunisie, du Brésil aussi, et la partie web où sur laquelle on va vraiment s'en servir en fait comme une veille, c'est-à-dire qu'on va proposer des documentaires sonores, on va proposer des playlists d'artistes, des portraits d'artistes qui seront présents sur le festival. En fait, il va venir en complément de tout ce qu'on fait. Mais en tout cas, on n'a pas fait de commande spéciale d'artistes pour mettre sur le web.
On trouvera tout ça sur votre site détourdumonde.org,
ouais.
Si je ne m'abuse. À ton avis, qu'est-ce qui va rester de ce qu'on vient de vivre ?
Je sais pas. J'espérais personnellement, j'espérais une prise de conscience. Une prise de conscience. On a vu les bienfaits, en tout cas sur l'écologie. Sur la couche d'ozone, sur tout ça. Après, je sais pas, je suis pas devin en tout cas. Mais qu'est-ce qui va en rester? J'espère au moins qu'il va en rester la solidarité entre les gens.
Très beau mot et valeur qu'on partage,
ouais.
Évidemment. Je vais revenir quand même concrètement sur le festival. Les habitants, vous les avez choisis comment? C'est eux qui sont proposés? Vous êtes allés les voir? Comment ça s'est passé?
En fait, on s'appuie, comme je te disais, on est parti en se disant quels sont nos points forts. Sur les anciennes éditions, en fait, on a toujours fait ce qu'on appelle des solos du monde l'après-midi. Donc, c'était une rencontre intimiste entre l'artiste et le public, justement chez les habitants. Donc, en fait, c'est des habitants qui ont l'habitude de recevoir les solos du monde. Pas que les mêmes, mais en tout cas, c'est quelque chose dont ils sont au courant. Ils savent que ça se passe très bien et ils sont volontaires, en tout cas, pour nous aider là-dessus. Et c'est grâce à eux qu'on peut faire cette édition.
Ça va être bien cette édition, je le sens bien. En tout cas, je vous le souhaite. Fabien, on arrive à la fin de cette interview. Est-ce que tu es prêt pour une petite interview détente?
Allez.
Allez, jingle. C'est l'heure de l'interview détente.
Bah ouais, parce que j'ai pas le droit de dire feel good.
Eh non, faut parler français, qu'est-ce que tu veux. Alors Fabien, est-ce que tu aurais un livre à conseiller?
Alors des livres, oui. J'en ai plusieurs. Après, justement, par rapport à tout ce qu'on vient de dire... Le dernier livre que j'ai lu, en tout cas, c'est une trilogie. C'est Le cycle des dieux de Bernard Werber. C'est un très beau cycle, en fait. Voilà, on sait le travail de Bernard Werber sur justement le côté toujours à la frontière entre la science-fiction et la réalité. Et dans cette trilogie, en fait, j'ai retrouvé justement tout le côté de se dire « Ah mince, mais en fait, c'est vachement crédible ». Donc le côté désacralisation du divin, des dieux, en fait, qui deviennent en fait très humains, et cette notion de justement de curiosité, la curiosité d'aller à la découverte de l'inconnu, et aussi, à chaque fois que je lis, je fais toujours des parallèles avec des situations de notre société, tout ça, et je retrouve justement la question aussi de la domination des peuples en fait par des personnes. Juste par des personnes, par des dictatures, des choses comme ça. Et voilà, c'est toutes ces réflexions-là, en fait, quand je fais des parallèles, moi, du coup, ça me parle beaucoup, quoi.
C'est la suite, si je ne m'abuse, des Thanatonautes et de l'Empire des Anges. Et le
Exactement.
Premier tome s'appelle Nous les Dieux.
Nous les Dieux.
C'est vrai que j'avais lu il y a quelques temps. J'ai la réponse à. Tu sais, il y a une énigme aussi dedans.
Oui. J'avais
trouvé. Et c'était assez sympa, mais on ne la dira pas, évidemment. Nous les Dieux, enfin, en tout cas, la trilogie des Dieux de Bernard Werber. Un artiste ou une chanson?
Alors là, c'est pareil. Hein. Là, j'en ai.
bah ouais, je me doute.
Alors, j'ai pas une chanson. En fait, il y a un artiste. Je peux t'en citer plusieurs.
Ah
en
ouais
fait.
Ouais, vas-y.
D'accord.
Vas-y.
Déjà la Mano Negra, parce que déjà moi c'était le premier CD que j'ai acheté à l'âge de 8 ans, King of Bongo. Et c'est un groupe qui m'a beaucoup marqué par ce qu'ils ont fait, parce que vraiment il y en a qui parlent, il y en a qui font. Je trouve que la Mano Negra a beaucoup fait en tout cas pour la musique, pour le rock alternatif. Et voilà, donc c'est vraiment ce qui m'a marqué. Plutôt même le CD King of Bongo du coup. Et dernièrement, enfin, et alors après il y a un autre artiste qui m'a marqué, c'est Fela Kuti, voilà, déjà parce que pour avoir créé l'Afrobeat, c'était quand même c'est une musique assez révolutionnaire, très engagée. Et c'est pareil, c'est un artiste qui a énormément fait, en fait, qui est beaucoup allé à la confrontation avec les politiciens, notamment, moi là, sa chanson qui m'a le plus marqué, International Tif Tif, voilà, voleurs internationaux, où il dénonce les pays qui viennent piller l'Afrique, la corruption au Nigeria à l'époque, et qui a carrément créé en fait sa république dans sa maison, là, donc la République de Calcutta. Voilà, c'est quand même, enfin, c'est assez incroyable d'avoir fait ça. C'est une histoire un peu tragique, en plus, Calcutta. Il a perdu sa mère, qui a été défenestrée par l'armée. Voilà, enfin, ça a été quelqu'un de très engagé. C'est vraiment un artiste, en tout cas, moi, que j'aime beaucoup. Et après, je peux te parler encore de Kenny Arcana dans le rap, mais là, je m'évade un peu des musiques du monde. De Charles Bradley. Un artiste qui est décédé il y a pas très longtemps, en fait, de soul, qui a été découverte sur le tard à l'âge de 50 ans par Dapton Records à l'époque où il jouait à Brooklyn. Et pareil, un artiste, enfin, déjà on est dans la soul, donc la soul, voilà, on sait que c'est des paroles qui touchent parce que c'est toujours des paroles personnelles, des histoires, des choses comme ça. Et vraiment une chanson qui m'a marqué de lui, c'est The World, une chanson où il dit que le monde est en train de brûler, en fait, et quand je l'écoute, ben c'est pareil, moi je peux pas m'empêcher de faire des parallèles avec ce qu'on vit actuellement.
Tu m'étonnes. Un film ou une série?
Deux films. Alors, je suis désolé, mais alors non, c'est mais peut-être vas-y. Le move du moment, tu
vas-y,
vois,
vas-y, vas-y.
C'est ma pensée du moment. j'ai deux films. J'ai Land and Freedom de Ken Loach. Enfin, je vais pas raconter vraiment l'histoire. C'est juste l'histoire en fait d'un jeune Anglais qui part en Espagne combattre en fait contre les franquistes. Et c'est toute une histoire, voilà, sur les mouvements, en tout cas d'opposition, de résistance. Voilà. Et ça, moi, ça me fait beaucoup écho à ce qu'on avait. Donc voilà, c'est censé être en 36, lors de la guerre de 36, c'est en Espagne, de la guerre d'Espagne. Et voilà, et c'est vraiment des choses, moi ça me fait toujours dire, mais quand on voit ça, comment j'aurais réagi moi à l'époque, ça met en exergue justement l'engagement des gens en fait, dans ce qui peut se passer, dans la manière de lutter, en tout cas dans la lutte, de lutter contre les oppressions, de lutter contre... contre des dictatures, enfin voilà, contre tout ça. Donc Land and Freedom, et ouais, je suis désolé, V pour Vendetta, quoi. Moi, c'est un film classique que je regarde très régulièrement, en fait, et encore plus maintenant. Alors, c'est, pourtant, quand je le regardais à l'époque, voilà, il y a quand même très science-fiction, et puis on finit par faire des parallèles à chaque fois avec les situations qu'on vit actuellement, et ça me fait beaucoup écho.
Le Festival Détour du Monde, c'est le 17 et 18 juillet prochain à Chennai, avec toutes les infos. Les résas, c'est sur détourdumonde.org. Il y aura plein de choses. Vous pourrez aussi voir des documentaires sonores, etc. En tout cas, allez voir ce site. Il est super. Merci beaucoup, Fabien.
Avec plaisir.
C'est toujours un plaisir de te recevoir. Bonne préparation et très, très bon festival à toi, à toute l'équipe. Et bah, je te propose, comme tu en as parlé, on va s'écouter tout de suite. Fela Kuti International Tif Tif. Autant y aller.
Ah bah ouais.
International Tif Tif. International Tif Tif.
ITT.
International Tif Tif.
International Tif.
International Tif Tif.
Oh.
International Tif Tif. International Tif Tif.
ITT.
International Tif Tif.
International Rook.
International Tif Tif.
Oh.
International Tif Tif. International Tif Tif. International Tif Tif. International Tif Tif.
l'un des meilleurs saxophonistes à mon humble avis, et puis un précurseur de l'afro, bah oui, Fela Kuti. Allez, tout de suite, un retour sur le festival Santenimi BD. C'était le week-end du 4 juillet dernier, on y était avec Nico, on s'est bien amusé. On a rencontré entre autres Philippe qui est président de l'association Santenimi BD, Eric Hupsch qui est auteur, Marco qui est auteur lui sur Locos et Armel. Voilà les premiers extraits, donc c'est un peu brut de décoffrage. J'en ferai un créneau libre dans quelques jours, pourquoi ? Parce qu'on a quand même pris je crois quasi 50 minutes de son avec plein de belles choses qui se sont dites. Et les autres auteurs que nous avons rencontrés, ce sera lundi prochain dans la matinale. Donc voilà, un petit retour sur le festival Santenimi BD, on écoute ça tout de suite. Philippe, alors, bah voilà, on y est, c'est génial, t'es en train de, tu me disais là, que tu es en train d'exploser tous les chiffres.
Ah oui, oui, là c'est parti. D'habitude, enfin, la meilleure année 2018, on était un peu plus de 1000 passages à midi, là on était à 1832 à midi et demi.
Les gens ont besoin de s'évader et de faire des choses en fait finalement.
Ben, je crois qu'il y avait un grand besoin notamment pour les amateurs de BD. Ils sont venus de très loin, on a des Belges, on a des Parisiens, on a des Normands, des gens de Grenoble, de partout, parce qu'ils étaient frustrés quoi. 3 mois sans festival, c'était pas possible.
Et finalement quand tu vois, quand tout le monde, les auteurs, libraires, éditeurs sont arrivés hier ?
Alors une grande majorité des auteurs est arrivée hier, on s'est fait un grand plaisir. On a fait une balade à pied, une balade en canoë. L'eau était fraîche, mais délicieuse. Le soir, un petit apéro à la fraîche au bord du Tarn, à Saint-Chély. Et puis, pour terminer, une petite soirée sous les rochers. On a fini à minuit et demi, puis un peu d'apéro gnôle chez moi à 2h. Quoi, et voilà, juste ce qu'il fallait.
On en a parlé en matinale, hein, mais même pour les auteurs, les éditeurs, les libraires, etc., c'est quelque chose d'important. Et forcément, ils doivent tous avoir un sourire aux lèvres. De se dire, ils explosent un peu tous les trucs, ça doit être génial pour eux.
Ah ben je crois qu'effectivement, ils étaient enthousiastes avant, ça c'est, on s'en avait parlé. Hein. Il y en a un ou deux qui étaient réticents, qui ne sont pas venus, on ne les a pas obligés. Et là, l'enthousiasme est plus que réel. Hein. Ils sont contents pour nous aussi. Parce qu'ils nous disent, bon, les gars, vous avez fait ce qu'il fallait, mais on y est.
Est-ce que, bon, c'est une question peut-être un peu bateau, je la laisserai ou pas au montage, mais est-ce que tu as eu la visite d'organismes sanitaires ou de mairie, etc., pour, voilà, non, il ne s'est rien passé de tout ça ?
Non, je crois qu'on a travaillé dans la confiance depuis le départ, on a pris le temps, nous on a été patients, parfois un peu difficilement, parce que le mois de mai a été long en attendant les feux verts, mais aujourd'hui la confiance était réelle. Et du coup, pas de visite, les choses se passent normalement, il y a des gens qui ont leur masque parce qu'ils souhaitent avoir leur masque, il y a les conditions sanitaires pour qu'ils puissent se laver les mains, il y a de la distanciation, et ça se passe dans la bonne humeur, et tout le monde est content d'être là.
Eric, ça fait 2 ans qu'on s'était rencontré à Radio Bartas, t'es là tous les ans, 2 ans, il s'en est passé des choses quand même, non ?
Depuis 2 ans, ben, je crois qu'il y a eu deux nouveaux albums. A priori, je ne sais plus quel album j'étais venu présenter. C'était peut-être le Topaz. Voilà, ben, depuis, en fait, dans la collection, toujours dans la même collection Pagnol, j'ai dessiné Cigalon, qui au départ était un film de Pagnol dans les années 30, je crois, qui est une comédie. Et La partie de boule, qui en fait est une nouvelle qui a été adaptée en bande dessinée spécialement pour la collection chez Grand Angle.
Comment ça s'est passé pour toi un peu cette période étonnante qu'on vient de vivre, ce qu'on appelle communément maintenant le confinement ?
Bon, pour moi, ça n'a pas été une grande différence par rapport à d'habitude, parce que comme la plupart des dessinateurs de BD, on est habitué à travailler chez soi. Et d'ailleurs, il y a un collègue qui a dit « Les dessinateurs de BD sont confinés depuis leur naissance et ça s'arrêtera qu'à leur mort.
» Ça, c'est une bonne formule, ouais, tu m'étonnes. Et tu as pu en profiter pour bosser ou tu as pris une respiration ?
En fait, apparemment, il y a certains dessinateurs qui ont bossé comme des fous et d'autres qui, au contraire, ont été un peu en relâche. Moi, je fais partie de la deuxième catégorie. Et j'en ai profité en fait pour plutôt écrire. J'ai écrit des petits textes, des choses comme ça. J'ai fait des petites fables un peu à la manière de La Fontaine. Et j'ai dessiné un petit peu, mais pas autant que j'aurais dû, parce qu'en fait justement, l'avantage entre guillemets d'une période comme celle-ci, c'est que comme il n'y avait aucune animation, il n'y avait rien qui pouvait perturber, on va dire, ou donner envie de faire autre chose que de dessiner. J'aurais pu être beaucoup plus productif. Bon, c'est pas été le cas, c'est pas grave. Je rattrape le temps perdu, du coup, je suis obligé de bosser beaucoup plus là. Mais globalement, en fait, j'ai pas eu trop à souffrir parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, je suis habitué. J'ai un métier quand même qui est solitaire. Je suis habitué à travailler chez moi. Donc, bon, c'est vrai qu'après, quand même, la restriction de liberté comme ça, c'est un peu comme pour tout le monde, mais c'était moins compliqué, je pense, pour les dessinateurs de BD ou pour les gens qui ont ce type de boulot que pour d'autres, quoi.
On a vu, je sais pas ce que t'en penses, une nouvelle façon de consommer la culture. Il y a énormément de choses qui se sont mises en place. Ça a été super intéressant. La BD un peu en second plan, parce que forcément les librairies, c'est un objet qu'on a besoin de toucher. Mais quel est ton regard finalement sur la culture, cette nouvelle façon de voir? Et est-ce que finalement, si ça nous réarrive, croisons les doigts que non, mais ce serait possible de consommer la BD autrement?
Alors la BD autrement, je sais pas. Moi je sais que par exemple pendant le confinement, justement j'ai écrit une petite nouvelle où je mettais un épisode tous les jours, enfin sur Facebook, enfin c'était comme ça. Et donc il y a quelques personnes qui ont suivi, qui ont trouvé que c'était vachement sympa. Et après sur la bande dessinée, la difficulté peut-être, c'est que le problème, c'est que ce type de, comment dire, la culture est surtout passée par l'informatique en fait essentiellement. Après il y avait aussi des gens qui jouaient de la musique un petit peu sur des balcons, des choses comme ça, mais c'était quand même principalement le médium qui passait par finalement la seule piste qui était encore ouverte, on va dire, qui était Internet ou l'informatique. Et la bande dessinée sur écran, c'est, même si on va dire qu'il y a des versions numériques qui se vendent un peu, c'est pas encore forcément le... je trouve que c'est pas encore tout à fait au point, et le public en fait préfère encore les versions papier. Alors il faudrait peut-être trouver, je sais pas, une manière de raconter, alors peut-être que, soit par strip ou alors par quelques cases par jour, je sais pas exactement, mais c'est sûr qu'il y a des choses à inventer de toute façon. Bon, de toute façon, en espérant que s'il y a une deuxième sorte de confinement, ils trouveront une manière peut-être différente qu'un confinement strict comme ça a eu lieu, parce que je sais pas si les gens supporteraient ça chaque année, 2-3 mois tous les ans, au bout d'un moment peut-être que...
finalement, et pour finir, on a l'impression que t'es jamais rassasié, t'as encore pléthore de projets en tête, encore envie de faire de la BD, c'est ton trip et tu changeras jamais.
Je sais pas si je changerai jamais, mais disons que tant que je trouve des projets qui m'intéressent et qui me donnent envie de dessiner, je continue. Puis surtout, tant que je trouve un éditeur qui apprécie mon travail, parce qu'après c'est plus difficile. Il y a quelques collègues qui ont quand même, dont Grand Angle, voilà, qui aiment bien mon boulot, mais j'ai des collègues quand même qui ont arrêté ou qui ont beaucoup de difficultés à retrouver des nouveaux projets. Pour des tas de raisons, parce que le marché actuellement est toujours en crise, même si régulièrement les éditeurs disent que ça va mieux, mais c'est toujours le cas. Et après aussi parce que il y a tellement de titres qui sortent que finalement les éditeurs, au bout d'un moment, ils n'ont pas forcément envie de re-signer. Voilà, donc pour l'instant j'ai encore la chance de pouvoir en vivre, de pouvoir travailler, de pouvoir en vivre et de signer des projets. Donc je continue jusqu'à ce que ça s'arrête, si ça jamais c'est le cas un jour. Voilà.
Merci Eric d'avoir pris un tout petit peu de temps avec nous. On te laisse la place et tu finis ta journée de dédicace. Et puis à bientôt, hein, j'espère.
Merci. Au revoir.
Eh bien, Armel, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots?
Je peux le faire. Voilà. Moi, c'est Armel Drouin. Mon pseudo, c'est Armel. Je fais de la bande dessinée. Donc là, je présente Ciboulette en balade et Ciboulette et le poisson pilote. Donc, c'est une série dessinée à la jeunesse. Et ma nouveauté, donc c'est Ciboulette et le poisson pilote. Voilà. Donc c'est une aventure entre Ciboulette et un jeune garçon, et ils vont découvrir les fonds marins, partir l'aventure. C'est un peu magique. Et ça parle un peu d'écologie, ça parle un peu de deuil, il y a plein de choses à vivre. Voilà. De l'amitié aussi. Enfin voilà, vaste sujet.
Ouais, comment ça se travaille, comment ça s'imagine un personnage un peu comme ça? Autant on a cet imaginaire de faire un film ou d'écrire des chansons. Est-ce que le personnage arrive tout seul? Est-ce qu'il s'affine au fur et à mesure du temps? Comment ça se passe pour un personnage qu'on crée comme ça, comme Ciboulette?
Souvent en fait on a un peu un personnage un peu fantasmé qui se crée en fait à partir du moment où on le dessine. Et à partir de là, on va y mettre... notre imaginaire, en même temps on va y mettre aussi des expériences personnelles. Alors moi je tire, enfin je pense que tout auteur tire un peu ses histoires des vécus, du vécu en fait de chacun. Et après bah, on brode, on fait en sorte que ce soit un peu attrayant, que ça emporte en fait le lecteur quoi. En fait j'essaye de faire avec ce personnage ce que j'aimerais lire en fait, voilà. Donc voilà, j'essaye de faire ça en BD hein, du moins.
On parlait de justement de la difficulté parfois de se faire éditer. Comment ça se passe pour toi? Je vois Jargille Édition, c'est ça?
Édition Jargille, donc c'est une édition stéphanoise. Moi, à la base, je fais beaucoup d'illustrations pour la presse jeunesse, puis l'illustration au sens large, donc de la com, enfin plein de choses. Et en fait, là sur les bandes dessinées aux éditions Jargille, en fait, je fais mon projet de A à Z comme j'en ai envie, en fait. Donc c'est pas ça forcément qui va me rémunérer, on va dire. Je vais pas envie, mais au moins je défends les livres que j'ai envie, en fait. Voilà, je fais ce que je veux, en gros. Et après, j'ai d'autres projets de bande dessinée que j'essaye de vendre aussi, après d'autres éditeurs, parce qu'il faut varier, en fait. Hein. Et là, j'ai une nouveauté qui va paraître chez Bambou, mais avec une collaboration avec un auteur. Et d'autres projets aussi qui sont en train de mijoter dans mes tiroirs et que je présenterai plus tard. Mais en bande dessinée, c'est vrai que c'est pas toujours facile de caser un projet, parce que ça demande vachement de préparation. Et du coup, en attendant, il faut quand même qu'il y ait des sous qui rentrent. Voilà. Donc il y a toujours un temps pour rentrer dans la bande dessinée et d'en vivre à 100%. Il faut vraiment voilà, y travailler beaucoup. Et voilà, donc c'est un équilibre à trouver. Pour l'instant, c'est moitié-moitié. Voilà.
Et l'importance des salons, d'aller à la rencontre des lecteurs, des autres finalement, il y en a beaucoup qui ont été annulés cette année. Est-ce que c'est un manque à gagner pour toi ?
Un petit peu, parce que en fait, souvent dans les festivals, les organisateurs en fait, ils nous font venir, mais ils nous proposent souvent des interventions dans les écoles pour échanger en fait sur la bande dessinée, sur nos nouveautés. Et c'est un moyen de faire un échange. C'est pas que le festival, c'est le festival et la société locale en fait. Donc ouais, il y a eu pas mal de choses à abandonner. Donc bon, on fait avec quoi. On va attendre, on reprend doucement. Mais bon voilà.
Ouais, ben je m'appelle Marco, voilà, et je suis voilà, j'ai réalisé une BD qui parle du retour du loup sur le Cosmé-Jean. Voilà, sujet d'actualité, brûlant et délicat.
Ah, le loup, question taboue. Moi, ça me fait toujours peur d'en parler sur les ondes, mais parlons-en. Est-ce que finalement, on peut être pour ou contre le loup ?
Alors, non, je pense que c'est un sujet complexe. Moi, la BD, elle essaye de ne pas prendre parti, quoi. Si ce n'est contre un peu la connerie humaine, quoi. C'est surtout, elle prend surtout parti contre ça. Et voilà, c'est le retour du loup vu à travers les regards d'éleveurs, de gardes du parc, des brebis, des vautours. Et voilà, mais avec un humour un peu caustique et une chute un peu décalée.
Le loup est... Alors déjà, qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce sujet-là ?
Ben, ce qui m'a intéressé, en fait, c'est que comme j'habite dans un petit hameau du Cosmé-Jean, voilà, j'avais des voisins éleveurs, j'entendais leur discours, j'avais des amis gardes du parc, donc j'entendais les propos différents, les différents points de vue, de pensée. Et puis sur le Cos, quand le loup est revenu, c'est vrai qu'on s'est, ça a scindé un peu la population en deux, donc ça a créé une très forte tension. Et puis, voilà, donc c'était un sujet auquel on n'a pas pu échapper. Et moi, aimant dessiner, ben, je trouvais marrant d'apporter un regard un peu extérieur, un peu décalé, et, voilà, qui relatait un peu les discussions de comptoir, sur le sujet, quoi.
Est-ce que, je crois que c'est en 2015-2016, je vais pas dire de bêtises, hein. Tu avais eu vent du faux procès du loup qui avait eu lieu au tribunal de Florac.
Oui, j'avais entendu parler du procès du loup et voilà, ouais, c'était un truc très chouette. Ouais.
Ouais. disponible sur radiobartas.net, hein, je précise, il est en ligne, on l'a diffusé.
Voilà, ben après, c'est, j'espère que la BD, un peu comme le procès loup, quoi, c'est plutôt un appel au dialogue et à relativiser aussi un peu les dégâts causés par cet animal, qui n'est qu'un animal, quoi. Mais, alors... voilà, et puis qui rappelle aussi ben, que l'homme, des fois, ne devrait pas oublier qu'il est lui-même un animal, quoi.
J'ai deux questions. La première, c'est le loup est très solitaire en Lozère. Hein. Il n'y a pas de meute.
Oui.
Ça, voilà, réponse laconique, ça me va très bien. Et la deuxième question, c'est aujourd'hui, il y a les tests ADN qui sont pratiqués. Toi qui t'y es intéressé, moi aussi, je connais des gardes du parc et qui m'ont dit justement ces tests ADN, c'est un peu à débattre parce que justement, le loup aurait 99% de d'ADN avec le chien, en fait. Et finalement, on peut pas toujours dire si c'est une attaque de loup ou pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi ?
Mais ouais, je crois que il y a eu beaucoup d'attaques de chiens errants. Après, voilà, pour avoir discuté avec des gardes qui ont fait des constats loups. Ouais, je crois que c'est un truc assez technique. Après, là, j'étais pas au courant des tests ADN, tout ça. Voilà, mais pas trop d'avis là-dessus.
Ouais, pas facile. Hein. Où est-ce qu'on peut te retrouver en dehors des salons? Parce que tu es en autodiffusion, comme tu disais, oui. Tu as une patte amateur. Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part?
Alors oui, la BD, elle est dans une quarantaine de lieux de dépôt, donc essentiellement des librairies de Lozère, hein, dans toutes les villes de Lozère. Et puis aussi d'Aveyron, du Gard, voilà, les départements limitrophes, dans des librairies aussi, parfois des tabac presse, et puis sur quelques lieux un peu plus touristiques. Voilà, voilà.
T'es sur le COS, le confinement, ça a été ?
Ben, je crois que, ouais, on était au bon endroit, quoi.
Est-ce que ça t'a permis de bosser, de faire des trucs, ou alors est-ce que tu as plus pris une pause, ou alors est-ce que tu as juste fini les travaux qui étaient en cours ?
Non, je pensais pouvoir en profiter pour bosser sur un nouveau projet là de BD, mais non, j'ai pas fait grand chose en fait. J'ai plutôt contemplé la nature, les animaux, voilà, et c'était très bien comme ça.
Merci Marco.
Et bien, merci à vous et à bientôt.
Marco, que je remercie vraiment, puisqu'il nous a offert, à nous, Radio Bartas, sa bande dessinée, et puis voilà, qui est, enfin, vraiment, ce festival, de toute façon, est un festival qui envoie du lourd, et on les retrouve lundi prochain pour les autres auteurs que j'ai interviewés. Voilà, c'est la fin de cette matinale, merci beaucoup, Nico.
Mais merci à toi.
On va reprendre notre quotidien absolument normal, voilà.
Et merci à vous, chers auditeurs aussi.
Effectivement, merci à toutes et tous de nous suivre. On se retrouve vendredi pour la matinale en direct. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Profitez-en bien. On se quitte avec Piquons mon amour. J'ai oublié le titre du morceau, mais c'est pas grave. Mais Piquons mon amour, c'est vachement bien. Puis c'est des copains. Puis voilà. Hein. Allez, bonne journée à toutes et à tous. À vendredi en direct. Ciao.
tournée, t'as laissé ton costume d'aimer.
Tu m'as demandé pourquoi, passe voir si tu stands bien chez moi.
Ta femme, j'ai bien, on s'est trouvé des points communs. Après, tu connais le frein.
Pas besoin de faire un dessin.
Jojo, pour moi, t'es le roi des rois, t'es le plus grand des plus grands.
T'es la star.
Un star, des stars.
Et la star, j'ai croisé son regard.
Je me suis dit, pas de lézard.
Il m'a toujours conseillé de profiter des instants volés.
Tu dis, ta vie, ça va, ça vient, c'est du con, mais collé.
Prends l'amour comme il vient, et tu seras toujours pardonné.
On a qu'une vie, c'est celle-ci, pas de gâchis, pas de chichi.
De temps en temps, t'essaies tant mieux, pas de raison d'être amoureux.
Qu'un mauvais présage, un seul gosse passage, un vieux copain qui craint fâché du quotidien, enfant pourri gâté qui sait pas s'arrêter, qui passe sans prévenir de bien mauvais souvenirs.
Oh,
faut que tu excuses ma gueule, je suis mort pas les femmes seules, plus on vit, plus on vient comme on écrit une chanson. Chanson!
J'ai subi depuis l'enfant, j'étais derrière, t'étais devant.
On a pas tous la même chance, j'étais toujours ton remplaçant.
Au football, on récré quand on faisait les 400 coups.
C'est toujours moi qui les prenais, évidemment, ça fait beaucoup.
Les râteaux, les cadeaux, les genoux écorchés.
C'était mon pain quotidien, ma leçon, ma corvée.
Un instinct malsain.
Et ce truc dégueulasse.
Qui fait toujours comme maillot de bain.
Moi j'ai la cour et toi la classe.
La première fois que t'as fait mûr.
T'as rencontré l'amour.
Et sur celui qui dure.
Moi je t'emmène dans la cour.
Dans la voiture volée.
Qui s'est fait serrer.
J'avais beau leur expliquer.
C'est toi qui l'as vu.
Comme un présage, un sale gosse passage, un vieux copain qui craint fâché du quotidien, enfant pour y gâter qui se passe à la terre, qui passe sans prévenir de bien mauvais souvenir.
Oh, cherche
quand tu m'excuses ma gueule, je supporte pas les femmes seules. Plus on vit, plus on vient comme on écrit une chanson. Chanson. Mesdames et messieurs, les hommes de Marlin qui est mieux de mon meurtre ce soir, c'est pour moi.
Était sympa.
Mais depuis quelques mois, je fasse pour n'importe quoi.
Je dis qu'elle ne mérite pas, elle est d'accord avec moi.
Je sais pas si c'est un compliment, moi je trouve ça plutôt d'accord.
Mais pour moi, le roi des rois, le plus grand des plus grands, je ferai n'importe quoi.
Tout le monde est comme un mort.
Si tu veux, on oublie tout.
Je le retourne dans ton nom.
Comme cette histoire fou,
aux intrigues en faisant.
Tu me feras mon lit dans l'un exemple décidant.
De sa vie pour qui tout colle sans problème, il me tracasse. Je suis comme un mauvais présage, un sale gosse passage. Un vieux copain qui craint, pas j'ai du quotidien. Enfant pour les gâter, qui sait pas s'arrêter. Tu passes sans famille, donc y'a un mauvais souvenir.
Oh, chacha!
Faut que tu m'excuses ma gueule, j'suis mort, pas les femmes seules. Et on vit les pommes, bien comme on écrit une chanson. Chanson! J'suis comme un mauvais présage,
un sale gosse passage.
Un vieux copain qui craint,
pas j'ai du quotidien.
Enfant pour les gâter,
qui sait pas s'arrêter.
Tu passes sans famille, donc y'a un mauvais souvenir.
Oh, chacha!
Faut que tu m'excuses ma gueule, j'suis mort, pas les femmes seules. Plus on vit, plus on vient comme on écrit une chanson. Chanson.
J'suis qu'un mauvais présage, un sale gosse passage. Un vieux copain qui craint, fâché du quotidien. Enfant pour y garder, qui sait pas s'arrêter.